Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Saviez-vous qu'il existe des schémas familiaux vous poussant inconsciemment à répéter les comportements de vos ancêtres ? Or, votre famille peut être un terreau fertile pour une profonde transformation de votre histoire personnelle. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Martine Garcin-Fradet, psychothérapeute formée aux constellations familiales qu'elle anime depuis plus de 15 ans, auteure de nombreux ouvrages dont « Des constellations familiales aux constellations de vie, se libérer du passé pour vivre le présent avec une conscience accrue » paru aux éditions Jouvence. Dans cet ouvrage, elle présente une vision inédite et novatrice des systèmes familiaux, les constellations de vie. Au fil de la théorie, mais aussi des exercices guidés, accueillez les ressources vertueuses et révolutionnez vos mémoires familiales pour écrire votre propre histoire. Bonjour Martine, et vraiment, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Sophie.
Pouvez-vous expliquer brièvement ce que sont les constellations familiales ?
Oui, alors c'est une démarche qui a été initiée par Bert Hellinger, et qui s'était formé à la fois à la thérapie de groupe et à l'analyse transactionnelle. Donc, comme introduction, c'est la référence. En soi, c'est un travail de groupe qui fait plutôt appel qui s'apparente à des jeux de rôle. Moi, je travaille avec un groupe, il me faut un minimum de 12 personnes pour avoir un contenant à ce qui se passe à l'intérieur du groupe, et une personne vient poser sa problématique. Donc, personnellement, j'ai besoin d'une heure et demie, donc je ne pose pas plus de 5 constellations dans une journée. Une personne vient exprimer sa problématique. En général, j'ai déjà un petit peu débriefé avec elle avant. Et puis, en fonction de la problématique, je vais lui proposer d'aller chercher dans le groupe, de choisir dans le groupe, quatre personnes pour représenter des membres de la famille, personnes qui sont concernées par la problématique. La personne qui travaille va mettre ses mains sur les épaules des personnes et les disposer dans l'espace de la manière qui pour elle fait du sens. Et puis chacun, alors c'est assez particulier, à partir du moment où on accueille ce rôle, on est d'accord. Hein, la personne, bien sûr, qui représente quelqu'un peut dire que non, elle n'est pas d'accord et c'est qu'on va choisir quelqu'un d'autre. Et la personne a des ressentis et qui correspondent à la personne qu'elle représente. Et elle va donc pouvoir se déplacer très lentement dans l'espace jusqu'à trouver une place où elle est confortable. Et l'animateur va demander, donc moi je vais demander à chaque représentant ce qui se passe pour lui, comment il se sent, et en fonction de ce qui émerge, je peux faire appel à d'autres représentants, et puis dans une écoute profonde, le processus se met en place, des paroles peuvent être prononcées. J'écoute ce que disent les représentants et j'écoute surtout la dynamique qui est à l'œuvre. Et petit à petit, la problématique se dénoue et des paroles qui sont des paroles presque rituelles vont être prononcées, c'est-à-dire que il y a des paroles qui sont en lien avec l'appartenance. Il est essentiel que qui appartiennent au système soient reconnues comme faisant partie du système. Et si quelqu'un a été exclu, la parole, les mots qui seront prononcés, ce seront « je te vois, je respecte ton destin, tu es mon grand-père, tu fais partie de la famille, tu as une place dans mon cœur ». Ça, c'est vraiment le mot. Et le mot clé, c'est « tu fais partie de la famille, tu as une place dans mon cœur ». Et puis, Donc, au départ, ce sont les représentants qui prononcent ces paroles-là. Tout à fait à la fin, la personne va prendre sa place dans la constellation et en fonction de la problématique, je vais lui proposer quelques mots qui vont lui permettre de prendre la responsabilité du changement et de modifier son regard sur la situation. Il s'agit surtout de modifier son regard, en fait, hein, et de voir alors, la modification de regard grâce à la compréhension que la personne va avoir de ce qui s'est joué pour ses ancêtres, de ce que ses parents ont pu vivre, ses grands-parents ont pu vivre. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Et un autre point qui est important, c'est que je conseille aux personnes de ne pas du tout parler de ce qu'elles ont vécu pendant un mois, de l'intégrer de manière à ce que les énergies ne se dissolvent pas. Et puis, au bout d'un mois, la personne sentira si elle d'en parler ou pas. Ça dépend vraiment des circonstances.
Et quelle est votre approche? En quoi se différencie-t-elle des constellations familiales dont on a pu déjà entendre parler?
Alors, au niveau du processus, le processus reste le même, hein, c'est-à-dire que les lois qui sous-tendent l'équilibre d'un système familial restent le socle sur lequel se fonde mon travail. C'est très important. Il dépend du respect de la place de chacun. Il dépend aussi du respect de l'ordre d'arrivée des personnes dans le système. Les parents restent les parents, les grands, enfin, symboliquement, on les nomme les grands, et les enfants, les petits. Et ça, c'est une base incontournable. Alors, ce qui est nouveau, c'est l'entrée. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai apporté à un travail que j'ai fait avec une philosophe argentine qui a fait des investigations sur la philosophie de Pythagore. Alors, je le nomme aussi pour me, voilà, en honneur de tout ce qu'elle m'a apporté. Cette femme s'appelle Amé Ruiz et elle se réfère aux vertus. Les vertus qui sont des valeurs essentielles, hein, c'est pas tout à fait le, sont vraiment des valeurs essentielles qui relient la terre au ciel et qui nous mettent sur un plan unifié de conscience. Donc, j'ai introduit des vertus au sein de la nation. Alors, ces vertus, ce qui va les différencier des qualités, c'est qu'elles n'ont pas d'opposé. La joie en place de vertu, qui est un état d'être, en fait, n'est pas l'opposé de la tristesse, la paix n'est pas l'opposé de la guerre, la force n'est pas l'opposé de la faiblesse, etc. Donc, on est plutôt dans des états d'être sur un plan unifié de conscience. Et les vertus, de même que dans la Grèce antique, elles étaient personnifiées par des statues, les vertus, elles vont être représentées par des personnes du groupe en fonction de ce qui me important, de ce que je ressens comme essentiel pour la personne qui vient travailler et en fonction aussi des carences de son système familial. Alors, le système familial, il a énormément de ressources vertueuses. Ça, c'est important parce que souvent, on parle des blessures et on oublie les ressources vertueuses. Donc, on va s'appuyer sur les ressources vertueuses du système, mais on va aussi faire appel à une ou deux ou trois vertus qui sont un soutien pour la personne. C'est un soutien tangible, un bon exemple, une famille dans laquelle il y a eu beaucoup de deuil. Et souvent, dans ces familles-là, on sourit, on rit beaucoup, mais c'est pas tout à fait, on sent que derrière, il y a autre chose. Et l'apport de la joie, quand une personne vient représenter la joie, va complètement changer le champ d'énergie. On sent tout d'un coup que quelque chose s'allège, que c'est une vraie joie qui peut se mettre en place et pas une joie qui va cacher une tristesse latente derrière. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important. Alors, il y a une autre nouveauté. Il y a longtemps que j'avais déjà commencé à introduire l'observateur. Alors, ce que j'appelle l'observateur, Jung va l'appeler le soi. On parle aussi du témoin silencieux. On peut parler de notre être de vérité. Et on va pouvoir poser une constellation, un représentant pour la personne et un représentant pour qui elle est dans sa vérité. Et ça, c'est très intéressant parce que ce représentant est habité par une immense bienveillance qui va permettre à la personne de se rendre compte qu'au fond, tout est simplement expérience. C'est un jeu, on apprend par ce jeu terrestre, mais cette expérience est l'entrée de l'observateur vraiment la transformation. Ça facilite la fluidité dans la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement récent. Et un autre point, mais je sais que certains de mes collègues le font aussi, moi je suis allée un petit peu plus loin, un autre point, c'est de représenter les croyances. Alors, on parle de croyances limitantes. Donc, c'est important de les représenter parce que elles sont là, invisibles. Elles sont présentes pour la personne qui vient travailler, mais elle n'en a pas conscience. Le fait de leur donner, de les représenter par une personne, dissocie la personne de ses croyances et ça va lui permettre de les lâcher petit à petit.
Et pourquoi est-il utile de retourner aux sources familiales de notre histoire ?
Alors, pour moi, c'est souvent une étape nécessaire sur notre chemin d'évolution, parce que ça va être un relais sur l'échelle qui nous permet de grandir en conscience. Connaître le vécu de ceux qui nous ont précédés dans notre lignée, nous comprendre les comportements de nos parents. Et bien souvent, les chocs de l'histoire ont percuté nos ancêtres et ont eu pour conséquence des comportements qui étaient inappropriés. Mais c'est important de dissocier l'histoire avec un grand H, les chocs de l'histoire du comportement des personnes. Ce sont finalement les réflexes de survie qui ont pris le dessus et les personnes sont complètement inconscientes du fait que leurs comportements sont teintés de violence, de rage. Ils peuvent être accompagnés de résignation, d'apathie, de jalousie, en fonction de ce qui s'est vécu. Et ça va induire dans chaque famille un système de croyances auquel les descendants se réfèrent sans en avoir conscience. Donc, de mon point de vue, c'est pas indispensable. Beaucoup de personnes avancent dans leur vie sans se référer à l'histoire familiale. Mais disons que ça permet aussi de s'appuyer sur les vertus, sur les ressources vertueuses de notre système familial. Et j'irai un peu plus loin pour avoir accès aux ressources vertueuses, pour avoir accès à tout ce qui est porteur dans le système familial. On a besoin de dire oui. On a besoin de dire oui, je suis. Alors, il y a un petit exercice que je fais faire qui est, ça c'est plutôt dans les formation qui est posée aux personnes de se mettre en groupe de 3 ou 4 et de dire aux représentants de leur père, tu es mon père, je prends la vie qui est passée à travers toi, tu es ma mère, je prends la vie qui est passée à travers toi. Donc c'est ce oui qui va donner l'accès aux ressources. Là, c'est vrai que quand une personne pense qu'en ayant coupé de manière physique, elle a résolu son problème. Non, parce que le lien invisible, il est là. Il est inconscient. Le rendre conscient libère. Donc, ce sont des liens qui sont juste de devenir conscient pour être accepté et libéré. Une fois qu'on a pris conscience, on peut prendre ses distances, mais c'est différent. On va le faire, on sait pourquoi on le fait, et on le fait dans l'amour.
C'est pas pareil. Ouais.
Alors, il y a autre chose aussi qui est important au niveau de l'histoire familiale. Je reviens sur les croyances. C'est les croyances qui se sont mises en place parce qu'elles ont été favorables, en fait, parce qu'elles ont permis la survie à nos ascendants. Si je prends mon exemple, j'ai un grand-père qui a survécu à la guerre de 14. Il est revenu avec un bras en moins et une jambe très abîmée. Il a fondé une entreprise, il a eu 5 enfants, et dans la famille de ma mère, la devise, c'est marche ou crève. Alors, on n'a pas le droit de se plaindre, hein, c'est clair. Par contre, cet homme a avancé et il a montré à ses enfants qu'il n'y a pas de victime quelque part. Il ne s'est jamais comporté en victime, Donc, c'est une ressource. Pour moi, c'est une ressource énorme.
Ouais.
Donc, de voir que derrière ce que, qui est parfois perçu comme difficile à vivre, parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre, il y a une vertu, il y a une force, c'est surtout une force de vie qui va nous pousser en avant. Donc, c'est vraiment... Et il y a d'autres croyances, une posture de victime, hein, des croyances comme... ah, tu voudrais faire ce métier, mais ma profil, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous. Et de la même manière, moi, je l'ai souvent rencontré dans des situations d'immigration, en fait. J'habite à la montagne en Haute-Savoie, il y a pas mal d'immigration, il y a eu pas mal d'immigration depuis l'Italie. Et c'était difficile. Les grands-parents, parents ont été très dévalorisés. Les papiers qui pour leurs parents et on voit beaucoup de ces situations on se fait discret, on reste en retrait, c'est pas pour nous. Mais derrière, il y a vraiment une grande force. Donc c'est cette force dont on va prendre conscience et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer.
Et qu'aviez-vous envie de transmettre à travers votre ouvrage Des constellations familiales aux constellations de vie? Paru aux éditions Jouvence.
Alors déjà, j'aimerais proposer au lecteur de regarder son histoire familiale d'une manière peut-être un petit peu différente en se reliant aux forces de vie dont il a grâce à cette histoire familiale. L'important, ça va être de se focaliser, de s'appuyer sur les ressources vertueuses du système. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ces énergies vertueuses, ces énergies que sont les vertus, elles relient la terre au ciel. Sont vraiment comme des, on peut voir comme des rayons, hein, avec différentes vertus, la force, la patience, la paix, elles sont innombrables, mais qui nous relient à l'unité. On peut dire que chaque vertu est une déclinaison de l'amour. L'amour va se décliner de plein de manières différentes et ces différentes déclinaisons, on peut les appeler les vertus. Donc, ça, c'est un point vraiment important qui permet de s'unifier, en fait, qui permet de se mettre dans de se mettre en paix avec soi-même et en paix avec son histoire. C'est important aussi de voir que, alors les vertus, on peut les appeler, ça c'est quelque chose que, oui, je souhaite transmettre au lecteur, on peut les appeler, selon Aimé Ruiz et selon Pythagore, les vertus ne restent dans notre troisième dimension que 24 heures. Donc on peut très bien le soir, en fonction d'un rendez-vous par exemple qui va avoir lieu, faire appel pour le moment de ce rendez-vous, hein, de manière très précise intérieurement, une vertu, par exemple la fermeté est une vertu, elle est bienveillante la fermeté, par contre elle a pour objectif de faire en sorte qu'aucun dommage ne soit causé ni ne soit causé à autrui. Donc admettons un rendez-vous professionnel qui est un peu délicat, on peut faire appel à la fermeté et vraiment sentir que cette énergie est là pendant, pour le temps de ce rendez-vous. Et petit à petit, plus on fait appel à ces énergies, plus elles nous habitent au quotidien. Donc, les constellations vont être l'occasion d'expérimenter. En fait, c'est peut-être le plus important. C'est l'occasion d'expérimenter ces vertus, de sentir l'énergie, et vraiment tout le groupe la sent, de manière à se les approprier et à s'approprier celles dont on a le plus besoin. Celles qui nous manquent le plus, on va dire. Alors, autre chose, un autre point important que je souhaite transmettre, ça revient, on retourne aux croyances, c'est que derrière les croyances se cachent souvent des trésors. Dans mon livre, je donne l'exemple de Flore. Son arrière-grand-mère a quitté la Russie quand elle était toute petite avec ses parents en 1917. On n'a plus jamais beaucoup parlé de la Russie parce que l'expérience était traumatisante. Par contre, ce qui s'est mis en place, c'est que la fuite a été très utilisée. On va dire que les personnes de la famille avaient souvent la fuite parce que la croyance qui s'était installée, la croyance inconsciente, c'était pour survivre, il faut fuir. La fuite garantit la survie. Du coup, il y a eu même des fugues hein, dans cette famille. Alors, on va revenir sur cette croyance et on va s'apercevoir que derrière la fuite, il y a eu l'amour, il y a eu le courage. Il y a eu au-delà de la survie. Alors, il faut bien voir que pour qu'une croyance descende les lignées, qu'une croyance puisse arriver jusqu'à la troisième, quatrième génération, c'est qu'elle a été portée par une émotion. Donc, l'émotion est forte. Et là, l'émotion, c'est l'amour. Et pas seulement. La survie, c'est un instinct. Mais l'émotion, c'est l'amour. Et c'est le désir de proposer à son enfant, qui est encore tout jeune, un que celui qui se profile. Donc, derrière la croyance, on va aller chercher la ressource, le courage, parce qu'il fallait un sacré courage pour partir. Et aussi, la prudence. En l'occurrence, dans cet exemple-là, le courage va avoir pour binôme la prudence, qui est aussi une vertu. Et si le courage n'est pas associé à la prudence, il n'est plus vertu. Parce que une prise de risque inutile va modifier l'énergie, en fait. Donc là, il s'agit vraiment, mais cette personne, qui est une jeune fille que j'ai vue, a vraiment compris combien elle pouvait, sa ténacité, c'est une personne très tenace, sa ténacité était associée au courage et avait besoin de se nourrir de la prudence. Dans la constellation, on va introduire la prudence, tout en sachant que le courage est là. Et derrière toutes les croyances, quasiment toutes les croyances, on peut vraiment voir qu'il y a des ressources vertueuses. Il y a eu un mouvement de vie et il y a eu de l'amour, parce que sans amour, la vie ne peut pas se transmettre.
Exactement. Et parmi les points que vous abordez dans votre ouvrage, que peut nous apporter l'entrée du pardon dans une constellation ?
Alors, l'entrée est très importante parce qu'elle unifie. Moi, je me réfère, hein, j'ai pas mal travaillé avec Olivier Clair, et je me réfère plutôt à la grille de lecture d'Olivier Clair. Donc, il ne s'agit pas, le pardon, ça n'a rien à voir avec le fait de reconnaître la culpabilité de quelqu'un et de lui dire, ah bah oui, tu m'as fait ça, tu en es coupable, mais je te pardonne. C'est pas, on n'est pas du tout là. Non, ça c'est clair. Le pardon, c'est une vertu, c'est une énergie vertueuse qui va nous permettre de nous mettre en paix. Alors, l'objectif de mon travail, c'est aussi de permettre à la personne de vivre l'instant dans la présence, de vivre l'instant en conscience. Et si vous observez, quand on s'observe soi-même, à chaque fois qu'on est dans la rancune, dans le ressentiment, on peut pas être présent. Donc, l'objectif, l'entrée du pardon, va permettre de quitter le ressentiment. C'est pas facile. On peut tenir à notre sentiment parce qu'il garde le lien. Il n'y a rien qui garde mieux le lien que le ressentiment. C'est de la colle bien puissante. Donc, on va avoir besoin d'empathie, de compréhension. Le pardon marche aussi avec la compréhension. De compréhension pour se mettre à la place de ce qu'a vécu l'autre personne et aussi pour ouvrir notre cœur. Ce que j'ai vraiment, moi, gardé de ce que Olivier Clair a transmis et que je transmets à mon tour, c'est que, à partir du moment où on reste dans un ressentiment, où on n'est pas dans le pardon, eh bien, notre cœur, il est fermé non seulement à la personne à laquelle s'adresse ce ressentiment, mais à toutes les autres personnes. Donc là, il s'agit d'ouvrir son cœur et d'inverser la situation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à la personne, parce que je me suis sentie blessée, je t'ai fermé mon cœur et je te demande pardon d'avoir fermé mon cœur parce que c'est... Donc, on est dans une totale inversion. Donc, le pardon peut venir être représenté en tant que vertu au sein d'une constellation. C'est très fort quand il y a... Alors, quand il y a eu des torts graves causés, moi, je vais quand même, dans une première étape, prendre le temps de reconnaître le tort causé. La personne a besoin d'être reconnue estime qu'elle a été à un moment donné. Il s'agit juste de ne pas rester dans cette posture de victime, mais ça fait partie de son histoire. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, et ça, on le fait avec... Alors, autre nouveauté que je n'ai pas nommée tout à l'heure, je fais appel au compost de l'univers. Je pars du principe qu'on a des composts dans nos jardins et que, comme tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, eh bien, il y a dans on peut poser qu'il y a dans l'univers des composts psychiques pour nos déchets psychiques. Donc, on va utiliser ce que j'appelle des ballons subtils. Alors, on va ouvrir ses mains, appeler nos ballons subtils, toutes les personnes du groupe le font pour la personne qui travaille, et demander, et la personne qui travaille aussi, bien sûr, et son représentant, et demander que toutes les mémoires en lien avec le tort causé et toute la responsabilité qui n'appartient pas, en l'occurrence, à la personne concernée, soient absorbées par les ballons subtils. J'ai oublié de le dire, je travaille avec un musicien, Jean-Marc Vignoli, qui improvise au violon, et ça participe vraiment à la fluidité du travail. Et donc, pendant ce temps-là, Jean-Marc va jouer du violon et les ballons subtils vont rejoindre un ballon central et le ballon central va apporter toutes ses mémoires au compost de l'univers. Ça marche. Une de mes collègues avait pris une photo un jour et je sais, c'est extraordinaire. Sur la photo, on voit des ballons. On voit en transparence des formes sphériques à côté, enfin sur les genoux de chaque personne, et un immense ballon central. Ça, c'était un beau cadeau. Donc, ça va être la première étape. Hein, ça va être de demander la transformation et de reconnaître le tort causé. Et ensuite, on entre dans l'étape du pardon, qui est aussi liée au fait que nos failles attirent les failles identiques chez l'autre, que nos défauts peuvent attirer des défauts qui ont même résonance chez autrui. Donc, quelque part, il n'y a rien à pardonner, en fait. C'est juste une étape qui est importante dans la reconnaissance du fait, en définitive, nous sommes un. Et, mais le pardon, pour moi, est vraiment... alors, Bert Hellinger, lui, était assez... opposé au terme de pardon, bon, je pense qu'il a été marqué aussi par toute une culture catholique dans un pays où le catholicisme était minoritaire, en plus en Allemagne. Il était contre l'idée du pardon, mais c'était parce que sa vision du pardon était culpabilisante pour l'autre. Alors, nous on ne travaille pas du tout dans cet esprit-là. Donc, c'est par le don. C'est un don. Le pardon est un don.
Et en quoi les constellations de vie peuvent-elles nous accompagner sur notre chemin d'évolution ?
On évoque souvent les blessures du passé comme une entrave à notre avancée. Et bon, certes, il est évident que ces blessures, on va avoir besoin d'être transformées, transcendées. Les constellations vont y contribuer. Mais en même temps, on peut regarder ces difficultés comme une invitation à transcender nos limitations pour accéder à une nouvelle qualité d'amour. Et au fil de notre chemin d'évolution, on va retrouver cette même blessure en se disant que, bon, ça va, on la connaît, on aimerait bien la lâcher, mais elle revient sur un autre plan. Et ce qui va se passer pendant au sein des constellations de vie, c'est que l'entrée d'une vertu qui vient... participer vraiment à la totale cicatrisation pure originelle d'une blessure fondamentale. L'entrée de cette vertu va nous permettre de faire un saut comme un saut quantique sur notre chemin d'évolution. Donc, l'évolution en spirale continue, simplement elle se fait avec plus de fluidité et aussi elle se fait plus rapidement. Il est vraisemblable que alors si on part de l'idée type qui est le présupposé avec lequel je travaille, que nous évoluons au travers de multiples incarnations, eh bien, il est vraisemblable que nous choisissions une famille spécifique qui va nous permettre de transcender des obstacles que nous n'avions pas réussi à transcender auparavant, qui vont nous remettre devant des que notre âme connaît bien, que notre être connaît bien, et cette fois-ci, ce sera l'occasion de boucler ce cycle, ce sera l'occasion d'aller plus loin. Donc, les membres de notre famille, on peut aussi les voir comme des partenaires sur ce chemin d'évolution, un peu comme une pièce de théâtre dans laquelle on a choisi les acteurs, on les a choisis en conscience sur un autre plan qui est le plan du choix d'incarnation, et vont être là avec beaucoup d'amour au niveau de l'âme, qui n'est pas forcément tangible au niveau du quotidien terrestre. Et ces acteurs vont nous permettre de grandir et de cette sorte de jeu de rôle qu'est une constellation et une constellation de vie dans laquelle on va introduire les vertus, va vraiment favoriser cette prise de conscience et va favoriser la transcendance qui se montrait régulièrement à nous. Et ça, c'est vraiment grâce aux vertus. Tout à l'heure, je vous parlais des familles dans lesquelles il y a eu beaucoup de deuil. On a besoin de la joie. Et une personne qui s'incarne dans une famille dans laquelle il y a eu beaucoup de deuil a sans doute, au niveau du vécu de son être, a sans doute elle-même des difficultés à accueillir la perte et à passer à autre chose. L'entrée de la joie comme vertu va permettre de rentrer dans cet état d'être, d'accueillir la tristesse, mais de l'accueillir comme quelque chose qu'on va traverser et quelque chose dont on va sortir. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment ce que j'écris souvent au tableau au cours de mes formations, c'est notre plus grande difficulté et le ferment de notre excellence. Donc, une fois qu'on a passé ce cap-là, il y a une expansion importante qui se fait. Et voir aussi que l'objectif final, c'est d'unifier les choix de la personnalité avec les choix de l'âme. Donc, la transformation des mémoires familiales, elle débouche sur une transmutation beaucoup plus vaste qui est au service de l'âme, au service de la vie. Et au service du système, au service du système familial.
Dans votre ouvrage, vous dites très justement que nous répondons à nos « je dois ». Il faut que « apprenons à les remplacer par « je choisis ». Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, un sujet bien intéressant. Il suffit d'écouter notre dialogue intérieur pour relever toutes les injonctions qu'il contient. Ce sont tous nos « je dois », tous nos « il faut ». Et on peut constater que ces injonctions, elles sont très intimement liées au rôle que nous jouons et auquel nous nous identifions. Par exemple, si je suis une bonne mère, je dois veiller à ce que mes enfants aient bien fait leurs devoirs. Si je suis une bonne enfant, alors j'ai donné l'exemple dans mon livre d'une personne dont la maman était devenue. Cette femme demandait à sa fille de venir la voir tous les jours et cette femme, la fille de cette femme, habitait à une trentaine de kilomètres. C'était beaucoup de faire l'aller-retour tous les jours, mais elle le faisait par devoir. Donc, il faut que j'aille voir ma mère. Je dois aller voir ma mère. Et là, c'est le devoir qui est présent, c'est pas l'amour. Et le devoir nous fatigue, on n'est pas du tout dans la même énergie. À partir, donc, pour être elle, la croyance qui portait cette décision d'aller voir sa mère tous les jours, c'était une bonne fille, une bonne enfant répond aux attentes de sa mère. Et elle était identifiée à ce rôle de l'enfant, la bonne enfant, la bonne fille. À partir du moment où il a pris conscience du fait que elle répondait à une injonction et qu'elle ne se respectait pas en y allant tous les jours, à partir du moment où on en a pris conscience, elle a pu échanger avec sa mère dans le calme, expliquer que c'était vraiment beaucoup pour elle et choisir d'aller la voir 3 fois par semaine. Et alors, à partir du moment où elle a été dans ce « je choisis », c'est l'amour qui portait son élan et l'amour ne fatigue pas. Tout ce que l'on fait par amour nous donne de l'énergie. Tout ce qu'on fait par devoir nous fatigue. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense très important parce que on n'en a pas conscience. C'est vraiment très implanté dans notre culture. Tout ce que je dois, etc. Ça peut être hyper simple. Je choisis de faire la... Au lieu de me dire, je dois faire la vaisselle, et vraiment, là, je suis fatiguée, ça me barbe. Si je me dis, ah, je choisis de faire la vaisselle parce que c'est tellement agréable le matin d'entrer dans une cuisine toute propre, je le choisis par amour pour moi-même et pour mes proches. Et remplacer, ce serait presque un exercice à faire au quotidien. Il n'est pas évident parce que le reprendre dessus, mais vraiment un exercice de se dire « je choisis » plutôt que « je dois ». Et on va faire les mêmes choses. Hein. Simplement, la motivation ne va pas être la même. L'élan ne sera pas le même.
Ça ne part pas du même endroit si on regarde. L'un, ça part du cœur et l'autre, ça part du mental. Donc, c'est ça qui fait aussi cette différence d'énergie, finalement.
Oui, et ça va un peu, j'irai un peu plus loin. Dans le derrière, le je dois, il y a un petit sentiment de culpabilité qui se faufile. C'est-à-dire...
Complètement. C'est très juste.
Et ça nous tire vraiment vers le bas, quelque part.
Complètement.
Et malheureusement, le sentiment de culpabilité dans nos cultures, il est assez présent.
Très présent.
Donc, le je choisis, c'est aussi une manière de me libérer en conscience du sentiment de culpabilité. Et une chose que je n'ai pas nommée, c'est le reproche. Le reproche ne nous touche que parce que notre faille, c'est le sentiment de culpabilité. Donc, cette femme dont je vous parlais, si sa mère lui dit « Oh, bah, t'es pas venue, et t'es pas venue hier, et j'attendais. » Et sa fille se sent coupable et le reproche va la blesser. Alors que à partir du moment où je choisis de faire quelque chose, je me libère du reproche. Et c'est hyper important.
Très, très juste.
Voilà.
Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ?
Moi, c'est gratitude. Gratitude pour notre échange. Gratitude pour ce que tout ce que la vie nous propose. Gratitude aussi pour les personnes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et pour ces vertus, parce que je crois que ce sont des forces, des énergies auxquelles nous pouvons vraiment avoir recours et qui peuvent nous accompagner à tous les moments de notre vie. Donc c'est gratitude, mon mot de la fin. Et merci à vous.
Ben, merci à vous pour notre échange et j'invite les auditeurs qui veulent justement aller plus loin à découvrir votre ouvrage « Des constellations familiales aux constellations de vie » paru aux éditions Jouvence, donc il y aura le lien sous ce podcast que j'ai trouvé vraiment très intéressant et très pédagogique aussi, très accessible. Donc vraiment un grand merci en tout cas pour ce partage et pour notre échange encore. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci, c'était un plaisir.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt !